Seigneur, c'est toi qui nous as appelés. C'est toi qui nous as rassemblés. Tu n'as jamais convoqué ton peuple sans lui révéler tes desseins. Nous te prions, ô Père, afin que tu te serves de ton serviteur qui va parler de ta part. Donne-nous d'écouter, comme écoutent les disciples, dans le but de mettre en pratique tout ce que ta parole ordonne. C'est pourquoi, fais taire en nous, ô Dieu, toute autre voix que la tienne. Parle, Seigneur, tes serviteurs et tes servantes, écoute, par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon Marc, chapitre 12, les versets 41 à 44. Là, il est écrit. Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces, faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen.
Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-nous par ta vérité. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, bonjour. C'est un privilège, mais aussi une grosse responsabilité pour nous de prendre la parole au moment où on ouvre une grande saison, celle des dons de reconnaissance. parce que c'est une saison assez importante dans la vie matérielle de l'Église tout entière, et en particulier de la famille chrétienne d'impact que nous sommes. Le texte de méditation qui nous est proposé ce matin nous parle de l'histoire d'une pauvre veuve. Telle que lue tout à l'heure, ce qui a fait la différence, c'est deux petites pièces. Deux petites pièces, mais qui ont fait qu'on parle d'une pauvre veuve de depuis 2000 ans jusqu'à ce jour. Deux petites pièces. Bien-aimés, nous sommes à l'an 33. Jérusalem, capitale du royaume de Juda. L'évangéliste Marc nous présente une scène de la vie de Jésus qui se déroule dans le temple, parce qu'on le voit à partir du verset 35. On dit qu'il prenait la parole dans le temple pour enseigner. Mais bien-aimés, à regarder de près, Jésus n'était pas véritablement dans le temple. Il se trouve dans le parvis des femmes. Parce que si Jésus était dans le parvis des hommes, les femmes ne pouvaient pas l'entendre. En réalité, le temple était sectionné en plusieurs parties. Il y avait le parvis, il y avait le temple proprement dit qui avait le lieu saint et le lieu très saint. Et le parvis à son tour avait au moins quatre échelons. Il y avait d'abord la cour des païens ou alors des étrangers. Ensuite, la cour des femmes. Venait ensuite la cour des hommes. Ensuite, celle des sacrificateurs. Et alors le temple proprement dit. C'est pour ça que nous pouvons penser que Jésus était assis, les troncs étaient placés dans la cour des femmes, parce que même les femmes mettaient aussi de l'argent dans le tronc. Une grande foule était venue pour l'écouter avec plaisir. Il y avait toute personne, les docteurs de la loi, les scribes, les pharisiens, les sadducéens, ainsi de suite. Jésus achève son enseignement en avertissant les scribes sur leur comportement vis-à-vis des veuves, disant qu'ils dévorent la maison des veuves et font en apparence de longues prières pour être vus des populations. Dévorer la maison des veuves ici, ils soumettaient les veuves peut-être à des conditions et des contraintes qui ne pouvaient pas leur permettre de subsister. Se tenant donc dans le parvis des femmes, s'étaient alignés 13 troncs pour les offrandes, devant lesquels les prêtres attendent, les donateurs. On appelait aussi ces lieux trésors à cause de la présence de ces troncs. Jésus, assis vis-à-vis des troncs, regardait comment les gens y mettaient des offrandes. Qui aurait pensé que Jésus s'intéresse particulièrement ce jour-là à l'argent? En réalité, pour Jésus, l'argent fait partie des bénédictions de Dieu, de ce que Dieu nous donne. Également, l'argent, c'est pour le service de Dieu, et quand je donne, c'est comme une action de grâce, une bénédiction. Je remercie Dieu pour les bienfaits reçus. C'est aussi là pour soutenir les frères et les sœurs dans le cadre de la communion fraternelle. Et donc, pour Jésus, l'argent n'est pas un dieu ni un maître, mais un serviteur au service du bien et de la justice. Marc chapitre 12, verset 41 nous dit en son début, Jésus regardait comment les foules y mettaient de l'argent. Jésus regarde avec intérêt et discernement, non pas combien, mais plutôt comment la foule y mettait de l'argent. Comment est lié à notre attitude de cœur, alors que combien est lié à notre état de cœur? Vous verrez la différence. Une attitude est fondamentale. Une attitude ne varie pas. Par contre, un état de cœur change. Il suffit que le prédicateur parle mal. Ce que j'avais dans la poche, je décide de ne pas donner. Ça, c'est l'état de cœur. Par contre, l'attitude ne varie pas, il n'est pas fluctuant en fonction de la conjoncture. Donc Jésus regarde l'attitude. Mais le comment, attitude de cœur, est plus important, car notre attitude, c'est notre personnalité. C'est ce que je suis. Et ce que je suis transparaît toujours dans ce que je fais ou dans ce que je ne fais pas. Dans ce que je dis ou dans ce que je ne dis pas, c'est commandé par ce que je suis. Dans ce que je donne ou dans ce que je retiens. Déjà Matthieu 28 nous dit, et voici je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus est présent au milieu de nous. Il nous regarde. Et cela démontre l'intérêt qu'il a pour chacun de nous. Il est là. Il est là et il regarde. Et son regard nous ramène dans l'histoire. Et c'est parce que Jésus nous regardait. Il regardait cette pauvre veuve. Son histoire a cristallisé son attention. Et c'est pour ça qu'on parle de cette histoire jusqu'à aujourd'hui. Beaucoup de gens sont passés par là, mais Jésus n'a rien relevé les concernant. En Exode 34, verset 20, la Bible dit, « On ne se présentera pas les mains vides devant ma face. » Plus loin, en Deutéronome, chapitre 16, verset 16 à 17, il dit, « On ne se présentera pas les mains vides devant l'Éternel. » Il ajoute en disant, « Chacun donnera ce qu'il pourra. » Selon la bénédiction que l'Éternel, ton Dieu, lui aura accordée. Beaucoup de textes peuvent se multiplier concernant les dons. Jésus regarde une foule composée de différentes personnalités, des grands, des riches, des pauvres, des hommes, des femmes, etc. Mais il regardait comment les personnes se comportaient devant les troncs. Devant l'autel, non. Pas devant le temple, mais devant le tronc. C'est-à-dire que lorsque nous venons devant avec nos offrandes, Jésus regarde comment nous manifestons notre reconnaissance. Il regarde l'enthousiasme ou l'empressement de certains à donner. Chacun a déposé son offrande dans le tronc. Rien ne lui échappait. Le regard de Jésus sur ce que je fais avec l'argent se pose sur mon cœur. Il ne regarde pas simplement ce que je fais avec l'argent, mais son regard transperce tout ce que je fais et se pose plutôt sur mon cœur. Il sait ce que j'ai. Il sait ce que je donne. Il sait ce que je retiens. Personne parmi nous peut ne pas savoir, mais Jésus, il sait. Puisqu'en réalité, avec l'histoire de la pauvre veuve, personne d'autre ne savait ce que la pauvre a donné. Jésus voyait celui qui déposait beaucoup. Il voyait aussi celui qui faisait semblant de déposer. Celui qui donnait avec joie et le bon cœur. Son regard va se focaliser, non pas sur la foule. Et même la foule, elle aussi, dans son regard, ne pouvait pas imaginer qu'une pauvre veuve puisse attirer l'attention du maître. Parce qu'on dit au verset 42, il vint aussi une pauvre veuve. L'expression aussi nous fait comprendre qu'on ne pouvait même pas penser à cette pauvre veuve. C'est une femme. Et ce qui la caractérise, c'est qu'elle est pauvre et également veuve. Cet état de veuvage explique très certainement cette situation de pauvreté. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de pension de réversion. Comme ça se passe aujourd'hui. Déjà que cette pension ne peut même pas supporter les charges d'une veuve. Cependant, malgré sa pauvreté, cette femme ne s'est pas présentée les mains vides devant Dieu. Cela ne l'a pas empêché d'être considérée par Jésus comme celle qui a donné le plus à ce moment précis. Bien-aimé, cette femme n'était pas révoltée contre Dieu pour avoir pris son mari. Elle est restée adoratrice du seul et vrai Dieu. Rien ni personne ne doit nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et rien ni personne ne doit nous dissuader de ce que nous avons préparé pour donner à notre Dieu. Parce que généralement dans les communautés comme les nôtres, où il y a beaucoup d'enthousiasme, de dynamisme, lorsqu'on a présenté un projet comme celui qu'on a présenté, nous sommes fiers, nous sommes prêts à participer. Mais il suffit qu'un Sambala ou un Tobija, entre guillemets, se mette à côté de nous, dit qu'il prend ça pour faire quoi, ça va faire quoi. C'est-à-dire, si vous ne restez pas dans votre attitude de chrétien, si votre état de cœur est influencé, si vous étiez préparé à donner 5 000 au lieu de 2 000, comme on a dit tout à l'heure, vous avez dit, bon, je fais le légalisme, je donne quand même les 2 000. Quelqu'un d'autre va dire, bon, il y a quand même les grands en paroisse, ils peuvent s'en charger. Ça veut dire, lorsqu'on est focalisé sur Dieu, alors, on ne peut pas être influencé par qui que ce soit. Ma louange est destinée à Dieu. Donc, ni personne, même pas les pasteurs, ne devraient influencer mon adoration. Et vous savez, comme on a dit plus haut, on ne se présente pas devant l'Éternel, notre Dieu, les mains vides. Bien-aimés frères et sœurs, cette femme a challengé le cœur de Jésus. Elle a posé deux actes majeurs d'une dimension spirituelle profonde. Un geste d'obéissance. Deux, un acte de foi. Jésus déclare que si les autres ont mis de leur superflu, cette femme a mis tout ce qu'elle possédait pour vivre. Donnons-nous quelques explications. Quand on parle de l'indigence, c'est l'état de celui qui n'a pas ce qu'il faut pour vivre. Il est indigent, n'est-ce pas? Quand on parle du nécessaire, c'est ce qui correspond à la vie normale d'une personne. C'est-à-dire que moins que cela, il devient un indigent. Par contre, quand on parle du superflu, c'est tout ce qui existe en plus du nécessaire. Si tu as besoin d'une voiture et tu en as deux, c'est que la deuxième voiture, c'est le superflu. Et souvenons-nous, il y a quelques années ici, nous avons organisé la foi du superflu. Pour ceux qui se rappellent, jusqu'à ce jour, j'ai un joli costume dans ma maison. C'était le fruit de la foi du superflu. Mes yeux étaient frappés sur ça et j'ai pris. Et je le porte avec beaucoup de joie. Je sais que c'est un bien-aimé de Tamja qui me l'avait offert. Je ne sais pas qui c'est, mais je sais que c'est une veste qui vient du royaume. Amen. Ça n'avait aucune tâche. Ça veut dire qu'il s'est rendu compte que c'était un superflu. Et je biaise en disant, si dans ta maison, si dans tes affaires, tu as quelque chose que tu n'utilises pas pendant 6 mois, ce n'est pas ta chose. C'est la chose de quelqu'un que tu as confisqué chez toi. En réalité, une femme qui ne porte pas une robe pendant 3 mois, vous savez comment les femmes changent, non? Pendant 3 mois, si tu ne portes pas une robe, ça veut dire que ce n'était pas ta robe. Prends-la simplement, tu envoies au pressing, tu repasses correctement, tu regardes autour de toi. Tu vas voir quelqu'un qui n'attendait que ça pour être heureux. Amen. Et tu comprendras par là que tu es la réponse de Dieu à une prière quelque part. C'est ça, les enfants de Dieu. Nous devrons être les réponses de Dieu aux prières des personnes. Saint Augustin disait, le superflu du riche, c'est le bien du pauvre. Et un pape de l'ancien temps disait, le superflu se mesure d'après le besoin du prochain. Tu ne mesures pas le superflu d'après ton besoin. C'est-à-dire quand tu vois un prochain dans un besoin et tu vois que ce n'est rien pour toi, tu te rends compte que tu as au-delà de cela. Tu dois te demander, est-ce que le surplus que j'ai n'est pas son besoin, son bien que j'ai dans ma maison. Bien-aimés frères et sœurs, passer cette définition, nous allons comprendre Cette femme a posé deux gestes, comme nous disions tantôt. Geste d'obéissance. Elle a obéi à la parole de Deutéronome, chapitre 16, versets 16 à 17. Tu ne te présenteras pas devant l'Éternel, notre Dieu, les mains vides. Acte de foi. Parce qu'elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Elle n'était même pas plus dans le nécessaire. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Acte de foi, pourquoi? Au sortir de là, il fallait qu'elle mange. Elle ne s'est pas demandé qu'est-ce que je vais manger. Mais elle savait, comme le Seigneur se dit si bien, et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins. Elle avait fait confiance à cet homme qui, à partir de deux pains, de cinq pains et de deux poissons, n'est-ce pas, a nourri toute une foule de 5000 hommes. Bien-aimés frères et sœurs, quel que soit mon statut social donc, ma condition matérielle, cela ne doit pas m'empêcher de venir adorer mon Dieu en esprit et en vérité et de contribuer pour son œuvre terrestre. Que chacun donne résolument selon la bénédiction que l'Éternel notre Dieu lui accorde. Bien-aimés, il y a plus de 2000 ans, Jésus était assis devant le trône. Aujourd'hui, dans ce temple, Jésus n'est plus assis devant le trône. Il n'est plus assis dans le temple fait de main d'homme, mais il est assis sur le trône à la droite de Dieu le Père, dans les lieux célestes. Cependant, il continue de nous regarder. Il me regarde, il te regarde, il regarde tout ce que nous faisons. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il regarde aujourd'hui? Qui intéresse Jésus aujourd'hui dans son regard? Toujours le cœur. Autrefois, il a regardé à quoi? Au cœur. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il regarde? Au cœur. Parce que Jésus ne change pas. Et sa parole ne change pas. Et donc, s'il regarde au cœur, il regarde mon témoignage. Il regarde le zèle avec lequel j'accomplis mon service. Il regarde l'état de mon cœur pendant que je m'approche de la table pour déposer mon offrande. Est-ce que j'y vais en disant, si je ne vais pas, on va dire que je suis resté assis? Il regarde l'état de mon cœur. Est-ce qu'il faut que je remplisse les formalités? Vous allez vous rendre compte que parfois, lorsqu'on parle d'un projet comme congé pasteur, on a annoncé ça aujourd'hui. On a dit que chacun se prépare. Mais il y a des gens qui, au sortir, ont déjà leur enveloppe et ont déjà déposé. La question qu'on peut se poser, est-ce qu'ils se sont préparés? Ou alors, ils se sont des grands jeux. Parce qu'on dit qu'un bon jeu est toujours prêt. Il faut bien se poser. Parce que soit tu étais prêt, soit alors tu veux t'acquitter d'une tasse pour laver ta conscience. Bien-aimés frères et sœurs, tout ce que je fais, ma contribution pour l'œuvre de Dieu, mon amour pour mon prochain, ma compassion pour ce monde en détresse, ma miséricorde pour les âmes qui périssent, Jésus regarde tout cela. Il ne s'agit pas simplement de l'argent. Il regarde comment je vis en société, comment je vis dans ma maison, dans mon foyer, comment je vis avec mon épouse, comment je vis avec mes enfants. C'est malheureux aujourd'hui de comprendre que dans la maison de Dieu, nous sommes en train d'engager beaucoup de procédures. Ce n'est pas une seule de procédure de divorce. Étant les deux dans les mêmes paroisses. Si ce n'est pas ici, c'est ailleurs. Dans l'église. Est-ce que le mot pardon n'existe plus? Ou alors ce n'est plus dans le dictionnaire? Ou alors Jésus a changé? Bien-aimés frères et sœurs, Jésus à ce jour a été assis devant le trône et il regardait. Aujourd'hui, il est assis à la droite du Père, là où toutes les grandes décisions sortent, et il te regarde. À toi de voir. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à cette femme? Par rapport à son obéissance? Par rapport à cet acte de foi? Je peux simplement dire, en réalité, c'est sa vie qu'elle a déposée dans le tronc, en conclusion. Puisqu'en réalité, au sortir de là, elle devait faire comme la veuve de Sarepta. La veuve de Sarepta disait, il ne me reste plus qu'un bol. Lorsque j'aurai fini ça, tout ce qui me reste, c'est faire quoi? Mourir. Cette femme a déposé carrément sa vie dans le tronc. Et lorsque nous chantons chaque dimanche, entre tes mains j'abandonne tout ce que j'appelle mien. J'ai comme l'impression qu'on dit tout sauf notre argent. Parce qu'en réalité, dans notre subconscient, ce que nous déposons, c'est nos problèmes. C'est quand on a des difficultés qu'on dit « Seigneur, entre tes mains, j'abandonne tout. » Mais quand tout va bien, ce n'est plus entre les mains de notre Seigneur. C'est un problème. Alors, comme acte de foi, pour ceux-là qui comprennent la nécessité de déposer devant le trône de la grâce, tout à l'heure, dans la liturgie, le pasteur a parlé de la dîme. Comme acte de foi, c'est lui qui dépose sa dîme sur le trône, dit « Je suis convaincu que 90% qui me reste, avec la bénédiction du Seigneur, je peux aller au marché, faire les achats qui soient au-delà du 100% que j'avais sans la bénédiction du Seigneur. » Il n'y a que la foi pour raisonner ainsi. Parce que comme acte de foi, on dit « Celui qui donne s'enrichit. » Mais le raisonnement scientifique, comptable, dit que quand tu donnes, tu es en train de perdre un bien, non? Ça, c'est la définition de donner. Tu perds quelque chose. Mais comme acte de foi, celui qui donne s'enrichit. Bien-aimés frères et sœurs, deux petites pièces. Juste deux petites pièces. Juste deux petites pièces. J'insiste là-dessus. Ça a permis que de ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, on ne parle que de cette femme, que de son sacrifice, que de sa libéralité. Pourquoi? Elle a regardé au-delà des hommes, au-delà des institutions, au-delà, elle a regardé simplement au Seigneur. Pourquoi je peux dire qu'elle a regardé au Seigneur? Parce qu'en réalité, elle était en train de contribuer pour une institution qui était en train de disparaître bientôt. Souvenez-vous, après ce texte, le texte qui suit, lorsque les disciples sont en train d'exalter le temple, Jésus répond comment? Très bientôt, il ne restera pas ici pierre sur pierre. Tout ça sera détruit. Pourtant, cette femme a donné de son tout pour quelque chose qui est éphémère. Qu'est-ce que je dis donc? Elle n'a pas regardé aux institutions. La plupart du temps, nous disons l'église évangélique est malade. Je préfère ne pas donner. Parce que je donne aux gens qui vont manger. Le verset qui précède, le verset 40 qui précède notre texte dit également que quoi? Les scribes et les pharisiens dévoraient la maison des veuves. C'est-à-dire qu'on peut même dire, à paraphraser, ils escroquaient les veuves. Mais ça n'a pas empêché que cette veuve sache qu'elle est en train d'adorer qui? Son Dieu. Bien que ce soit le scribe qui soit devant le trône pour percevoir. Bien-aimés frères, si tu regardes au trésorier avant de donner, tu as raté la cible. Si tu regardes au pasteur avant de donner, tu as raté la cible. Si tu regardes à ce que l'autre a fait avant de donner, tu as raté la plaque. Et donc, chacun de nous ne doit pas se contenter de donner de son superflu. Jésus ne veut pas nos miettes. Il ne veut pas les miettes de ton temps, de ton énergie. Il veut quelque chose de consistant. Quelqu'un disait, je ne donnerai pas à mon Dieu un sacrifice qui ne me coûte rien. De Samuel 24, verset 24. Un Dieu qui est attentif aux plus petits gestes, attentif aux gestes les plus discrets, car mieux que quiconque, il sait de quoi est fait notre cœur. Il sait de quoi nous sommes faits. Pour conclure, ou alors pour chuter, il serait question pour nous d'entrer dans le pourquoi donner. Mais nous y reviendrons plus tard dans des séances d'études bibliques parce que les raisons sont multiples, si on veut regarder littéralement. Je voudrais dire, en ce dimanche où nous sommes à l'ouverture de la période de nos dons de reconnaissance, nous sommes heureux d'avoir des bergers qui croient qu'ils doivent donner le ton. Et tout à l'heure, nous allons les encourager à donner le ton. mais ça ne reste pas là. Que chacun de nous se souvienne de ce qu'il a fait l'année dernière. Que chacun de nous se souvienne de ses offrandes quotidiennes, de regarder et dire, est-ce que j'évolue? Est-ce que Dieu ne me bénit pas suffisamment? D'ailleurs, tu ne donnes pas, tu t'appauvris. Parce que tout à l'heure, on a dit que donner, c'est s'enrichir. Ça veut dire au contraire, ne pas donner, c'est faire quoi? C'est s'appauvrir. À toi de choisir si tu veux être riche ou si tu veux être pauvre. Parce qu'il dit d'ailleurs, on te mesurera avec la mesure dont tu te seras servi. Ne jamais regarder ce que le voisin a fait pour donner. Et je bénis le Seigneur pour notre communauté. Parce que nous avons parmi nous des personnes qui comprennent cette affaire. Une poignée fait le sacrifice pour la communauté. Mais je suis conscient que si chacun de nous avait compris cette leçon, notre impact et notre influence seraient beaucoup plus grands. Que le Seigneur bénisse en nous l'écoute de sa parole. Amen. Bien-aimé, une minute de prière. Demande pardon à Dieu pour toutes les fois où tu as donné en murmurant dans la maison du trésor. Tu as par là fermé les écluses des cieux pour toi-même. Demande pardon à Dieu pour les fois où tu n'as pas atteint ta propre cible. Parce que l'Église peut donner des cibles qui sont indicatifs, mais chacun de nous peut avoir sa cible en fonction des bénédictions qu'il a reçues de Dieu. Demandons pardon à Dieu pour toutes les fois où tu savais que tu pouvais donner, mais à cause d'une négligence, tu ne l'as pas fait. Comme cette pauvre veuve, supplie le Seigneur afin que ta condition ne t'empêche pas d'adorer le Seigneur avec ton bien. Comme cette pauvre veuve, posant son acte de foi, supplie le Seigneur afin qu'il te donne de poser ce genre d'acte de foi quand le moment arrive et qu'il te parle à ton cœur. Rends grâce à Dieu pour les bienfaits qu'il te comble, qu'il te donne dans ta vie. Et comme acte de reconnaissance, prends des engagements, des challenges pour œuvrer dans la maison du trésor, c'est-à-dire dans notre temple. Notre Dieu et notre Père, nous te bénissons pour ces moments de partage autour d'un sujet délicat qui touche notre sensibilité. Nous qui, dans notre région, pouvons donner une queue, une corde à la place d'une chèvre. Seigneur, exorcise-nous et donne-nous, Seigneur, de savoir que tout ce que nous avons vient de toi et t'appartient et tu peux demander à tout moment pour travailler. Seigneur, pardonne-nous nos négligences, notre légèreté et accorde-nous la grâce de prendre un nouvel élan, un nouveau départ et de travailler pour ta gloire et pour ton œuvre. Parce que alors tu vas nous enrichir. Parce que de riche que tu étais, tu t'es fait pauvre afin que nous soyons enrichis. Merci Père pour tout cela. Gloire à toi au nom de Jésus-Christ. Amen.